Vous écoutez
RMC.
C'était bien réel, les amis.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Dernière soirée d'audition pour la France à un incroyable talent.
Revers sur revers, Novak Djokovic qui pilonne le revers de Yannick Sinner, mais pour l'instant ça tient des deux côtés. L'échange est remarquable.
Jamais j'ai eu aussi hâte de voir un numéro.
Il est fort sur sa ligne, Novak Djokovic, même si là il fait 3 de gauche, ça va dans le filet 40-30.
Je suis bluffé chaque fois. Tu as un talent de dingue.
Wow, service gagnant, il a plus qu'à finir là. C'est pas possible, il avait un coup droit pénalty, un revers pénalty, il se fait prendre. C'est pas possible. Mais il a tenu la qualif là, il s'est trompé Novak Djokovic.
C'est un truc de fou ce qu'on vient de voir.
Wow,
mais attends.
Waouh. Le niveau est gueudin.
Oh, ça sort. Yannick Sinner qui part à la faute et Novak Djokovic réalise l'exploit insensé. 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, il l'a fait. Il sort le numéro 2 mondial, il met fin à 5 défaites d'affilée. Et dimanche, il jouera pour un 25e majeur. Incroyable.
On lui disait, mais quand est-ce qu'il va arrêter? Il est plus capable de mettre deux pieds devant l'autre.
J'aime bien quand elle a la scène des grandes vérités comme ça, Sarah.
Et qui dit que je parlais de Djokovic?
Mais c'est pour ça que notre malveillance légendaire fait qu'on aime reprendre des expressions sans aucun contexte. C'est notre spécialité. Une journée de tennis pour l'histoire. Hier, près de 10 heures de jeu et 17 pour les deux demi-finales disputées. D'abord, Alcaraz, vainqueur face à Alexander Zverev au bout d'un duel homérique de 5h27. Et surtout, une résurrection... Je ne sais pas si on peut dire inattendu à ce moment de l'histoire, mais l'inoxydable Novak Djokovic a créé la sensation en sortant en plus de 4 heures de jeu le grand favori du tournoi, le double tenant du titre, Yannick Sinner, de 14 ans, son cadet. La différence entre Christophe et moi est même pas aussi importante, à vérifier quand même. À 38 ans.
Je suis sûr que je te mets ta route.
À vérifier quand même. À 38 ans, 39 en mai, le Serbe a réalisé l'un de ces matchs qui restent dans les mémoires. Il tentera dimanche face à Alcaraz d'aller décrocher le 25e titre du Grand Chelem de sa carrière pour repousser encore un peu plus loin le record. À Melbourne, il n'a jamais perdu une finale. 10 finales, 10 victoires. Les GG, je vous pose la question. Ce matin, oui ou non, Djokovic, Novak de son prénom, est-il définitivement devenu le plus grand joueur de tous les temps? Le GOAT, on arrête, hein, on arrête les palmarès et tout ça. Oui ou non? Marc Madio.
Oui.
Christophe Cessieux.
Oui.
David Douillet.
Non.
Ah.
Oh.
Sarah Pitkowski.
Oh, quand même un oui, ouais.
Quand même un oui.
On vous attend quand même un oui.
Au 32-16. Vous votez sur le compte X des GG du sport, hein, également. On va voir tout à l'heure ce que vous en pensez. Vous êtes dites à oui à 59% pour l'instant. Ah, il y a toujours les fans de Federer et Nadal.
Ah oui.
C'est très subjectif, évidemment, hein, ce genre
chacun
de.
Chacun aura
ce
toujours son goût personnel, hein.
Ça. Exactement. Mais moi, c'est toi.
Ben oui,
voilà, je te le dis, c'est une déclaration d'amour que je te fais ce matin.
Il va me demander un truc. Hein.
Tiens, regarde, Xavier sur WhatsApp me dit le plaisir du week-end, c'est prendre mon café en écoutant les GG et savoir que je ne serai pas d'accord avec tonton Christophe sur un sujet dont j'ignore encore l'existence. C'est vrai que c'est dur d'être d'accord avec tonton parfois. Eric Salio est à Melbourne, à l'Open d'Australie. Salut Eric.
Salut les amis.
J'ai envie de te poser Eric. D'abord une question Salut, très Eric. Simple avec une réponse simple. Ça va?
Fatigué.
J'avais posé la même question. Tu fais du 24
petite là. Question par rapport à il y a quelques jours. Est-ce que avec les matchs qui s'éternisent dans le temps, la cantine reste ouverte?
Oui, parce que Eric nous a dit la semaine dernière que pendant un point important, fermé, il était à la cantine.
Elle était fermée.
Je sais même plus à quelle heure ça s'est fini le match. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que on a vu. Dieu à 3h du matin et c'est pas lui qui est venu en conférence de presse, c'est nous qui sommes venus à sa rencontre tout près des vestiaires parce qu'évidemment il a dit à l'épée écoutez j'ai une finale à préparer,
c'est
donc
Djokovic, hein.
Chaque minute compte, donc c'est la presse internationale s'est déplacée vers le maître parce que le maître eh bien il faisait une audience quoi, il a délivré quelques paroles, il a profité pour tailler les pseudo experts qu'il envoyait à la retraite. C'était magnifique et on s'est régalé. Après il a fallu travailler un peu. Non, je suis rentré à l'hôtel à 4h du matin et je me demande dans quel état ils sont les deux là, les deux finalistes, parce que Djoko faut le digérer ce match parce qu'il a tout donné. C'était admirable sa motivation, mais Carlitos, il a souffert aussi physiquement. Donc cette finale elle est géniale. Mais je sais pas dans quel état.
Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui, Eric, justement? Comment ils vont récupération, les pieds en l'air? Ah,
complètement. Ils sont pas venus au stade du tout, Christophe. Ils sont pas venus au stade.
Non, on met plus les pieds en l'air pour récupérer.
Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'on fait.
Tu fais des bains froids. tu fais des bains froids, tu fais tout ce qui est possible, mais t'attends pas que ça se passe tout seul. Aujourd'hui, il y a une vraie aide extérieure pour pouvoir récupérer.
Bien, les pieds en l'air, moi, c'était bien. Ouais.
Tu peux le faire, hein, mais je suis pas sûr que t'aies une finale à jouer.
9h30 pour le match demain, 9h30 pour la finale dames également dans quelques instants entre Sabalenka et Rybakina. Eric, tu restes avec nous. Bah, tiens, tu parlais de Djoko, qui a peut-être un peu réglé ses comptes avec ses... C'est quelques détracteurs encore. On va l'écouter.
Les pseudos, il a dit. Eric.
Allez, on l'écoute.
Je n'ai jamais cessé de croire en moi. Il y a beaucoup de gens qui doutaient de moi. Il y avait beaucoup d'experts qui ont voulu me mettre à la retraite ou qui m'ont mis à la retraite, et ça beaucoup de fois ces dernières années. Je veux tous les remercier parce qu'ils m'ont donné de la force, ils m'ont donné de la motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort, ce que j'ai fait ce soir. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Honnêtement, je sais de quoi je suis capable.
Je sais de quoi je suis capable. Alors c'est vrai qu'on en a fait des débats sur les deux derniers week-ends. Hein. On a parlé de Djokovic ici, Christophe, le plus grand de tous les temps.
Moi, je fais partie des pseudo-experts qui pensaient qu'il ne serait plus jamais en finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Donc, c'est honnête.
Je l'assume. Franchement, il n'avait aucune référence avant d'arriver à Melbourne. Il n'avait pas disputé un match. Il était quand même un peu fatigué. Les deux autres étaient sur un nuage. Je n'imaginais pas une seconde qu'il puisse battre Sinner. La question, c'était, est-ce qu'il peut gagner un tournoi du Grand Chelem? Moi, je pense qu'il peut. Là, il s'en est rapproché, mais il lui reste un deuxième obstacle énorme, et peut-être encore plus énorme.
Il a monté l'Everest deux fois en trois jours.
Mais c'est vrai qu'il est bluffant. Le mec est bluffant. Arrivé comme ça, avec le pied en charpie, parce qu'on parle d'ampoule, mais c'est pas une ampoule qu'il a. Il a le pied à moitié ouvert. Il arrive comme ça, il fait son...
Il avait un chandelier entier sous les pieds.
t'as vu le ouais. Mais
là, tu vois, la caméra, elle sert à quelque chose, là.
Pour voir
ce qu'il avait Djokovic. Exactement, le pied de Djokovic, on l'a vu dans toute sa précision.
Dans tous ses détails. Ouais,
exactement.
Mais non, il est dingue. Et je pense qu'effectivement, pour répondre à ta question du GOAT, c'est vrai qu'en termes mathématiques, il était déjà le plus grand de tous les temps, parce qu'il était au-dessus de Federer et Nadal en termes de victoire. Mais là, arriver à faire le pont entre deux générations, les deux plus grandes générations sans doute de l'histoire du tennis, peut-être, enfin, Sinner, Alcaraz, on verra, c'est en devenir.
Ils sont bien partis.
Mais déjà être la chaussure dans le caillou de Nadal et Federer pendant des années, puis être le plus grand tout seul et arriver à être encore le caillou dans la chaussure de Alcaraz et Sinner, ça franchement je vois pas quelqu'un capable de le faire et de le reproduire dans les années à venir. Il est tout simplement énorme et unique.
David, pourquoi tu dis non sur le plus grand de tous les temps?
Bah parce que moi j'ai toujours beaucoup de mal à comparer des athlètes qui sont pas de la même époque. Voilà. Djoko, c'est...
Oui, mais il a battu toutes les générations,
mais non,
David,
il a pas battu Borg, il a pas battu Cognor, il a pas battu René Lacoste,
il
est habillé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est champion de son temps. Là, je suis d'accord, de son temps. Mais faire des comparaisons de tous les temps, ça me pose un problème, parce que tu peux pas comparer quoi que ce soit.
Mais c'est en termes mathématiques, en nombre de victoires de Grand Chelem, David.
Mais oui, mais ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la concurrence, ça dépend des systèmes de préparation.
Regarde,
je sais, mais Djoko là, il a montré à la terre entière que en ayant une vie extrêmement, on va dire, monastique, saine, etc., en ayant des préparateurs physiques, des préparateurs peut-être mentaux, des préparateurs au niveau de sa nutrition, etc., on peut pousser le physique plus loin que les autres et donc d'augmenter le temps de la performance.
Tu crois que c'est parce qu'il a refusé les vaccins qu'il est aussi fort?
Non, j'en sais rien, mais tout ça, ce sont des avancées que n'ont pas bénéficié d'anciens comme Borg, Connors, Lendl, McEnroe, etc. Donc, c'est pour ça que c'est ridicule pour moi de comparer une époque à une autre. Et ça serait encore plus ridicule dans d'autres disciplines, comme le vélo, par exemple, ou peut-être l'aspect technique a une incidence un petit peu...
C'est le jeu de la passion. On ne cesse de comparer Pogacar à Merckx. Et pourtant, il y a une grosse différence.
Oui, on est tous convaincus, David, que tu aurais éclaté, t'es dit rien.
C'est pour ça que je dis... Exactement. C'est pour ça que je dis, c'est absurde de comparer des athlètes de différentes époques, parce que ce n'est pas comparable, le contexte est différent. Le niveau de, avec le, la qualité des compétiteurs qui les entourent, elle est différente. L'organisation des compétitions est différente, le rythme, bref, tout est différent. Donc il y a tellement de différences que ça t'en vient...
Non mais bien sûr, effectivement, David, t'as raison, voilà. C'est vrai qu'en vélo, par exemple, on ne va pas comparer le vélo de Merckx et le vélo de Pogacar sur les poids et tout ça.
Alors, c'est juste en termes de palmarès sur les courses qu'ils ont gagnées, les tournois qu'ils ont remportés, c'est uniquement ça. Quoi.
Volontairement, je donne la parole d'abord aux non-spécialistes de tennis, hein, Sarah, parce que c'est ce qui s'est passé hier, je pense que ça dépasse le cadre du tennis, et on va plus sur l'émotion du passionné de sport. Marc, toi le plus grand de tous les temps, Djokovic, c'est une conversation voilà, de passionné, évidemment, mais Djokovic, tu l'aimais bien déjà.
Je suis spécialiste à l'état pur du tennis. J'ai eu péniblement l'occasion de tenir une ou deux fois une raquette dans les mains, et c'était catastrophique. Mais moi, je m'arrête juste sur l'instant. C'est un moment d'éternité qui s'est passé là hier. Et c'est là-dessus que je m'arrête. Ce mec, il a 38 ans. On le pousse à la retraite tous les 15 jours en disant « c'est fini, il faut qu'il s'en aille ». Et lui seul décide « non, je ne m'en vais pas, je vais rester ». Et je vais vous prouver que je peux encore le faire.
Ça te plaît, ça.
Et ça, moi, c'est fantastique. Le mec, il a plus rien à gagner. Il est blindé jusqu'à la fin de ses jours. Il a tout eu, il a tout gagné. Il a le record de Grand Chelem. Et à plus de 38 balais. Je suis là. Et je vais mettre la balle au fond. Personne n'y croit. Donc c'est là où c'est intéressant et c'est fantastique. Pour moi, oui, c'est le plus grand. Alors c'est sûr, on peut dire, il était moins ci, plus ça. Il y a eu là, ces différences de génération. Je m'en fous. Je m'en fous. Aujourd'hui, il est magique. Il est exceptionnel. Et on va s'arrêter ce week-end sur lui. Et dans quelques semaines, il y aura d'autres tournois du Grand Chelem. Il aura sans doute du mal à réitérer ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais peu importe. Peu importe. Il nous a fait arrêter le temps pendant quelques minutes. Voilà, c'est
ou
tout.
Quelques bravo, heures. Fort.
Quelques ouais, heures, oui. Mais c'est ce qui était intéressant, c'est surtout la fin.
La journée
et
est longue.
Voilà, et
la journée fut longue.
Et le mec, bah, tu prends mais, le chapeau, tu le poses.
Non, mais effectivement, alors, David arrive à prendre du recul là-dessus, parce qu'il a tellement été habitué à gagner.
Ouais, l'émotion, c'est pas son truc, David.
Non, mais c'est vrai qu'en fait, je pense que ce qui nous touche tous ce matin, c'est qu'on est encore beaucoup à l'émotion. Parce que l'émotion est tellement incroyable. Comme tu le dis, le temps était suspendu. Sarah, on a eu le sentiment hier, je pense tous, et vous les auditeurs et auditrices, ils nous écoutaient, hier on reçoit plein de messages, là tout le monde hallucine hein, encore. Hein, voilà, le cœur me dit Nadal, me dit Manu, mais la tête me dit Djokovic par rapport à ce que j'ai vu hier sur le WhatsApp. Ça, on avait le sentiment hier de vivre un truc historique, en fait.
Ah oui, absolument.
Un truc qui va rester.
Oui, je crois, pour ceux qui étaient en tout cas devant leur télé, parce qu'il faut les images ou il faut le son, parce que tu peux le suivre, le score. Mais il se passait quelque chose d'assez magique et d'assez irrationnel sur le terrain. En fait, s'il est le plus grand aujourd'hui, c'est parce qu'hier, il réalise indéniablement un exploit incommensurable. Déjà parce que... Il y a ce match face à Sinner que les cinq dernières fois ils se sont affrontés, c'est Sinner qui est passé devant. Tout simplement, on pouvait l'expliquer par toutes les raisons. En fait, il a son clone en face de lui de 14 ans, son cadet, qui fait tout plus vite, mieux et sans déchet.
Donc, il s'est battu lui plus jeune.
Mais en fait, je veux dire, quand on dit quand Eric en rigolant, il dit les pseudo-consultants, c'était impossible. Je n'ai pas vu une phrase où quelqu'un disait il peut le faire. On se disait il peut y avoir une bataille, mais à la fin, on ne pensait pas une seconde qu'il puisse battre sur le même tennis, sur le même terrain, Sinner. Sachant que hier, il a battu Sinner avec son tennis à lui. C'est-à-dire qu'il l'a battu du fond de court avec des rallyes de 15-20 frappes à une vitesse de jeu qui est... Mais c'est du jeu vidéo ce qui se passe. Et que pour Djokovic arriver à cette demi, déjà, un, il était quasiment perdu, il aurait pu être disqualifié au troisième tour par son geste de mauvaise humeur. Deux, derrière, contre Menchik, les spécialistes disaient « il s'en est pas sorti ». Il y a WO. Et ensuite, il est mené 2-7-0 face à Musetti. Et miracle. Sa tactique face à Musetti, c'était tous au filet. Et il menait juste 3-1 au troisième. Donc, en fait, déjà, se retrouver en demi-finale, c'est de l'ordre de dans un grand chelem, avoir autant de bol pour rester poli, pour arriver en demi-finale, tu dis déjà, c'est très bien. Mais ce qu'il réalise hier en termes de tennis.
Il a piqué le chat de Deschamps, c'est ça que je veux dire.
Non, mais ça
pas loin.
David.
Sarah, tu sais, puisque tu rentres dans le détail, et c'est super, et tout ce que tu dis est vrai, pour un garçon comme Djoko, je trouve que, et un garçon qui ne lâche rien, qui va dans Absolument. Les plus fines capillarités de l'entraînement, qui titille l'excellence dans tous les domaines, il a une information qui pour moi est cruciale. C'est que Sinner, dès que ça dure, il se dégonfle.
Oui, absolument.
Dès que ça dure plus de 4 heures, c'est fini. Donc, je pense que dans sa tactique de jeu, et tu me diras si je me trompe, il tient, il élève son jeu, il est là, il est, c'est un mur face à Sinner, mais il attend. Il attend que l'autre commence à gamberger au bout de ses 4 heures et qu'il commence à décliner comme il l'avait fait face à Alcaraz, face à un autre match épique du même niveau. Et c'est là où il le piège. Et c'est là toute la grandeur d'un Djoko.
Oui,
c'est que mentalement, lui, il sait qu'il peut aller jusqu'au bout.
Il y a quand même une inconnue dans ton équation. On sait qu'au-delà de 4 heures, Sinner devient un joueur prenable. Prenable.
Oui.
Mais lui... Je suis pas sûr qu'il ait signé, qu'il pouvait tenir plus de 4 heures à ce rythme-là. C'est-à-dire qu'il avance quand même dans une forme d'inconnu. Il sait que plus ça va être long et qu'il arrive à tenir, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Mais au début du troisième set, il a la bouche ouverte, Djokovic. Mmh. Il est plié en deux à chaque fin d'échange. Il est trempé en transpiration. Et je le regarde, on est avec mon mari, on regarde le match, on dit, mais là, il est dans le rouge. Au début du troisième, il est déjà dans le rouge. T'imagines pas que, à la fin du cinquième, 0-40 à 3 partout, il a 3 balles de break à sauver. Tu te dis pas une seconde qu'il est capable de le faire. Donc, tu peux trouver toutes les raisons. Ce qui s'est passé hier, c'est l'ordre de l'irrationnel.
Ouais,
c'est irrationnel.
Djokovic, pour moi, non, c'est du mental. C'est que du mental.
Djokovic est-il définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Tiens, Valide sur WhatsApp me dit une finale à son âge, c'est irrationnel. Comme le dernier Roland de Rafa, on a vécu des moments suspendus, comme le disait Marc. Mais pour moi, c'est Rafa le GOAT. Laissez-moi dans mon déni. Et oui, là, c'est vrai que là c'est la passion qui parle. Allez, on revient dans un instant. Djokovic, est-il définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Et est-ce qu'on a vécu finalement l'un des joueurs de tennis les plus grands hier? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport, encore sous le choc de la journée de tennis que l'on a vécue hier. Et un Novak Djokovic qui, à 38 ans, arrive en finale d'un grand chelem. On continue d'en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est définitivement le plus grand joueur de tous les temps? Vous êtes très nombreux, 32-16. Attends, mais d'abord, événement dans les grandes gueules du sport ce matin. Remportez vos places pour assister au match d'ouverture du tournoi des 6 nations. France-Irlande, jeudi à 21h au Stade de France. On vous propose de vivre l'expérience RMC. Avant le match, vous assistez à la dernière heure du Super Moscato Show. La dernière heure, c'est la pire. Vous arrivez dans le Kikadi et tout. Normalement, vous repartez peut-être avec pas indemne. Puis direction au Stade de France pour assister au match avec la personne de votre choix. Et en plus, on vous rajoute un maillot du 15 de France dédicacé par les Bleus, franchement. Dès que vous entendez ceci, soit c'est parce qu'il est très tôt le matin et qu'il faut se réveiller, soit c'est parce que vous aurez 5 minutes pour envoyer rugby au 7-32-16.
Oui, il est pas très bruyant le coq là.
Ouais, petit
c'est,
coq.
C'est un petit coq, un petit cocouné. Hein.
On pense aux gens qui se réveillent, vous pouvez être agressé. Vous entendez ça, c'est rugby au 7-32-16. Vos places pour France-Irlande se gagnent uniquement sur RMC. Avant de continuer à parler de Djoko, Eric Salio à Melbourne dans l'Open d'Australie. La finale féminine va débuter dans quelques instants entre Sabalenka et Rybakina. Hein.
Oui, la Rod Laver Arena est plongée dans le noir. Hein. De toute façon, on va jouer en indoor hein, parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. Et l'entrée sur le court des deux joueuses est imminente. Il y a un petit cérémonial sympa. Vous l'avez découvert sûrement tout au long de la quinzaine où elles empruntent un couloir. On a l'impression qu'elles traversent l'océan. C'est très bien foutu.
C'est très long.
Et donc, on va voir si Sabalenka va pouvoir reconquérir ce trophée puisque l'an passé, elle a perdu sur Madison Keys. Mais en face d'elle, il y a la redoutable kazakhstanaise Elena Rybakina, qui avait perdu il y a 3 ans contre Sabalenka. Donc c'est une finale qui s'annonce très indécise, je trouve.
Eric, on va continuer à débattre sur Djokovic. Tiens, je voulais juste revenir sur les conférences de presse qu'il y a eu cette semaine. Il y a eu un moment notamment qui a été très commenté, c'est quand Djoko s'est un peu agacé contre un journaliste qui, dans sa question, lui a dit: vous avez été en chasse derrière Federer et Nadal pendant toute votre carrière, vous êtes maintenant en chasse derrière Alcaraz et Sinner. Et lui a dit: mais attends, mais j'ai dominé pendant 15 ans au milieu les grands chelems. Non mais
c'est un jeune journaliste ou
je crois. Non mais c'est un vrai carburant,
c'est
pour Djoko quand même.
On va pas le citer. Ouais.
Oh, bah, c'est un anglais alors.
Non, mais je crois que c'est un joueur du Telegraph. Bon,
c'était pas anodin comme séquence, ce moment-là.
Oui, mais de toute façon, Djoko, faut pas le titiller.
Hein, il a dit, hein, je trouve disrespectful, même manqué de respect, quoi. Et il rigolait pas, là, hein, croyez-moi. Et non, mais c'est tout Djokovic, faut pas l'attaquer. Mais il se nourrit de ça, hein. On l'a entendu encore tout à l'heure. Quand il y a des mecs qui l'envoient à la retraite, bah, il s'en nourrit. Ah bon, tu dis ça, toi? Bah, tu vas voir ce que ça. Et voilà. Et le résultat, c'est ce match fantastique contre Sinner hier. Et il est capable de rééditer cette performance contre Alcaraz. Et là, il va faire taire des bouches.
Non, mais c'est un garçon qui s'est nourri de l'hostilité. Ambiant du public aussi pendant toute sa carrière. Christophe, parfois ça l'a pas rendu sympathique. Hein.
Non, on le sait.
Même Roger Federer. Alors, j'ai revu hier soir un documentaire sur Federer qui disait il a été incompris Djokovic dans sa carrière. Mais les dernières années ont peut-être un peu changé.
Il a été incompris. Il essayait de faire des blagues et ça tombait un peu à l'eau souvent.
Les imitations, c'était pas.
Mais il faut savoir qu'il est arrivé sur le circuit en imitant. C'est congénère. Sharapova en a pris pour son grade aussi. Nadal en a pris.
Non, mais
il est un peu ambigu. C'est-à-dire que il voudrait être sympathique, mais parfois il a raté.
Mais il n'a pas toujours été. Rappelle-toi cette finale de Coupe Davis. On était ensemble à Belgrade, entre la France et la Serbie. Il avait des paroles nationalistes et il voulait faire tomber
la chaise. Il était monté sur la chaise d'arbitre. Il avait parlé en serbe, donc on ne pouvait pas comprendre. Et il s'était adressé au public pour que celui-ci devienne encore plus hostile contre l'équipe de France. Mais comme on ne savait pas.
On savait que c'était hostile.
Oui, on a bien compris que c'était un peu.
Mais voilà, il a eu des côtés assez insupportables, ses fausses blessures. Ah ouais, j'ai mal là, mais en fait, il n'était pas blessé, il mettait des roustes à tout le monde. Son comportement, alors ça, c'est plus discutable, son comportement vis-à-vis de l'Australie et des vaccins. Bon, il est resté droit dans ses baskets. Certains, les anti-vax, en ont fait un héros.
Il y a une image un peu plus troublée que Federer et Nadal.
Federer et Nadal, surtout Federer, tu les prends pour des enfants de cœur.
Mais oui, mais
c'est les petits seins, et l'autre, il vient de
Serbie. L'autre, il a un peu côté bad boy,
moi c'est pour ça que je l'aime bien, moi.
Toi, tu l'as toujours aimé pour ça.
Ouais.
Si tu devais te comparer à un grand coureur cycliste, tu vois, dans son caractère, dans sa façon de faire, tu le comparerais à qui? Est-ce que tu y a des comparaisons?
Djoko. Toute proportion gardée au niveau des palmarès, je dirais Ocaña.
Ah ouais. Ah bah c'est bien, c'est ton idole.
Oui. Le mec qui vient contre la
puissance établie.
Ouais.
Oui, mais il aime bien être contre.
Il adore être contre.
Quand il y a le Big Three, donc avec Nadal, Federer et Djokovic, le bon, la brute, le truand, tu sais qui était truand dans ce trio-là. Et il a essayé, en plus, de nombreuses fois, il le disait, de nombreuses fois, il a essayé de séduire et d'avoir le public avec lui. Mais il y a quelque chose qui faisait que il y avait de la maladresse où on pensait que c'était calculé. Souvent, on lui a dit qu'il calculait ses
qui manquait de spontanéité.
Exactement.
En fait.
Qu'il essayait de s'approprier un public, mais que c'était pas naturel. Et effectivement, quand les deux sont partis, il a eu la place pour.
Eric.
Il s'engage sur le plan politique, hein. Il est obligé de déménager.
Contre le pouvoir en place en Serbie.
Il habite en Grèce désormais, hein, parce que il n'est pas du tout le bienvenu là-bas.
Ouais, parce qu'il a soutenu le mouvement étudiant. C'est ça, vraiment. David.
Moi, je pense qu'il n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein.
Non, il est né sous les bombes. Ouais.
Sous les bombes.
Je vous rappelle que la Serbie, c'est l'ex-Yougoslavie. Et je pense qu'il a dû bénéficier d'une éducation particulière, ne serait-ce que par ses parents qui ont dû connaître la Yougoslavie et le bloc de l'Est. On n'est pas dans les mêmes configurations que la Suisse ou l'Espagne, d'accord. Évidemment,
les parents de Nadal ont connu aussi sans doute une partie du régime franquiste.
Je n'ai pas connu le régime franquiste. Je pense que toi aussi, cher Christophe, parce que nous avons des cheveux blancs bien ancrés, on a connu l'ancien bloc de l'Est et ça faisait pas rigoler du tout. Les gens souffraient dans ces pays, les gens étaient dans des conditions très très strictes, très dures, très âpres, très compliquées. Donc tout ça, ça a été transmis à un Djoko qui devait être jeune et petit, et ça lui a peut-être donné une rage de se sortir du lot, une rage de vaincre qui est encore toujours présente aujourd'hui. Et moi, je trouve, je vous entendais parler tout à l'heure de sa personnalité, etc. Mais Ok, il a la personnalité qu'il a avec ses qualités, ses défauts, mais il a une personnalité.
Ouais, oui, raison,
il me semble avoir entendu dans cette émission quelquefois, et en particulier en parlant du tennis, que bah voilà, il y a plus d'aspiration, il y a plus de caractère, ils sont tous sur le même truc, ils sont tous sur la même.
Lui,
c'est il y en a pas un qui dépasse plus haut que l'autre. Voilà, on s'ennuie un peu. Là, on s'ennuie pas avec un Djoko.
Ah, mais il se passe toujours un truc avec lui. T'as raison.
Il se passe toujours quelque chose. Bah, c'est quelqu'un qui s'exprime à travers son tennis, mais qui s'exprime aussi en tant qu'individu, en tant qu'homme, et qui, moi, je trouve, nous prouve qu'il a du caractère bien trempé, à la fois dans ses choix, ses décisions, mais aussi ses idées, ses idées. Et ça, on peut pas le cacher. Et je trouve que il est attachant. Par ça, qu'on soit d'accord ou pas avec lui d'ailleurs.
Ah ben bien sûr, il est attachant, il était même peut-être un peu attachant au début, diraient certains. Toute proportion gardée, tiens, Nabil sur WhatsApp dit Djokovic, même les pros Federer et Nadal sont dithyrambiques à son sujet, preuve que c'est le meilleur de tous les temps. Sylvain nous dit Djokovic n'a pas été aimé parce qu'il avait une hygiène de vie différente, parfois poussé à l'excès, mais il a une grande gueule, voilà pourquoi. Denise me dit non, c'est Rafael Nadal le plus grand. Bon, alors c'est très bien que le cœur joue là-dessus. Et on a Antoine qui nous appelle au 32-16. Salut Antoine.
Salut les grandes gueules.
Bon, le plus grand sport, le plus grand de tous les temps. Il n'y a plus de débat ce matin après ce qu'on a vu hier, Antoine.
Écoute, l'admirateur inconditionnel de Federer que je suis ne peut que constater
que ça
la réalité objective des choses.
C'est bien.
Concernant ce qu'a fait Djokovic, mais depuis des années en fait. Et je pense que, alors je parle sous le contrôle de Sarah et d'Eric Salio, mais peut-être que Federer restera plus dans l'esprit des gens parce qu'il a incarné une forme de tennis absolu, de perfection, etc. Mais ce qu'a fait Djokovic sur la durée, c'est phénoménal. Et moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est que quand il arrive, qu'il commence à avoir des résultats 2005, 2006, et qu'il dit que son ambition, c'est de rivaliser avec Nadal et Federer, mais personne ne le prend en sérieux. Et il l'a dit, lui, il veut les battre, eux. Et non seulement il l'a fait, il les a dépassés, et il continue encore aujourd'hui à repousser les limites. Et par rapport à ce que vous disiez sur sa personnalité, qu'il n'a pas été trop aimé, je pense qu'à partir de 2011, il a accepté d'être le méchant de l'histoire.
T'as raison.
D'être le truand dans le bon, la bête et le truand. Comme
ils en ont servi aussi, ouais.
Et à partir du moment où il a assumé ça, d'être le méchant de l'histoire, il a été fantastique. Et finalement, il gagne aujourd'hui le respect qu'il a cherché à avoir au début, en étant maladroit dans sa façon de le faire.
C'est tout à fait ça.
Et c'est fantastique.
Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de positif autour de Djokovic. Avant, c'était celui qui nous empêchait parfois de voir Federer, Nadal, qu'on avait envie de voir. Aujourd'hui, il y a l'histoire positive de, entre guillemets, hein, le vieux qui arrive à battre les jeunes.
Et il repousse le temps où on va voir du Sinner Alcaraz pendant un moment. Mais on est allé voir les dates, hein, de ces trois, leurs derniers titres en Grand Chelem et l'âge qu'ils avaient. Parce que là, il a 38, il est dans sa 39e année. S'il gagne effectivement ce 25e titre, Federer gagne, il a 39 ans, hein, en 2018, quand il gagne son dernier titre à Melbourne. Moi, je pensais que, dans mon esprit, je pensais que Federer avait arrêté plus jeune. Nadal, c'est 36 ans, hein, quand il gagne son dernier Roland en 2022. Donc Federer a eu quand même une longévité avec 20 titres du Grand Chelem, mais comme quoi les souvenirs s'effacent véritablement.
Ah, mais là, on marche évidemment à l'émotion.
Il est quand même dans une situation où il a le record de Grand Chelem, tout en ayant traversé deux grandes époques du tennis. Aussi bien Federer que Nadal, et aujourd'hui Sinner et Alcaraz.
Et tu sais, Marc, et il n'a pas laissé la place. Et parce que Djoko était là, il n'a pas laissé la place à des Medvedev, à des Tsitsipas, à des Rude.
Zverev, même.
À Zverev. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils auraient dû prendre le pouvoir.
C'est terrible ce qui s'est passé pour lui hier.
Ils auraient dû prendre le pouvoir, ces mecs-là.
C'est terrible. Je pense qu'hier, il a compris qu'il n'y arriverait jamais.
Je pense que Zverev, il ne peut plus dormir.
David, le mot de la fin.
Non, mais moi, vous m'énervez. Vous êtes plus d'accord entre vous.
On a bien compris qu'on t'énerve.
Ça m'énerve parce que les bons morceaux avalés n'ont plus de goût. là, vous êtes à chaud sur un fantastique match qui a eu lieu hier. Mais je suis d'accord avec vous, c'est fabuleux, etc. Mais on a tout, vous oubliez tout. Vous oubliez ce qu'a fait Federer, vous oubliez ce qu'a fait Björn Borg. Björn Borg a fait un parcours incroyable.
Mais c'est générationnel, en fait. T'as raison.
Ben oui, je sais, mais enfin, relativisme, mettez un peu de relativisme là-dedans. Les coups de gueule de McEnroe, le mauvais garçon de l'époque, c'était lui, et il s'en nourrissait. Mais moi, je trouve qu'il y a un fil conducteur sur toutes ces générations, c'est que tous ceux qui ont marqué ces générations dans le monde du tennis avaient tous un mental de dingue. Voilà, un mental de fou furieux.
Bah, bien sûr.
Et je pense que, Sarah, je ne sais pas si tu vas me contredire, mais il n'y a que ça dans le tennis. Parce qu'à un moment donné, ils jouent, ils ont tous des coups fabuleux, ils sont tous hyper doués. Et ceux qui font la différence, ceux qui passent au-dessus du lot, c'est ceux qui ont des cabasses, des têtes de folie, et qui ne peuvent pas être renversés parce qu'ils sont dans un état de grâce où rien ne peut les renverser. C'est des monstres.
Bah, c'est des monstres, c'est pour ça que...
Mais il ne faut pas tous les oublier, il n'y en a pas qu'un seul.
Mais attention, David, là, tu nous dis qu'on est un peu ridicule, mais si je dis David Douillet, le plus grand judoka de tous les temps...
Arrêtez vos conneries, ça n'a rien à voir, je rigole évidemment.
Allez, évidemment, Novak Djokovic.
Arrête ça tout de suite.
Ok, je dément parce que j'ai peur. On reparlera demain matin, évidemment. On ouvrira là-dessus, hein, Djoko face à Alcaraz, 9h30. Rendez-vous avec l'histoire dans les grandes gueules du sport. La finale dames commence, Eric Salio, à l'Open d'Australie, à la Rod Laver Arena.
Absolument, elle vient de débuter avec Aryna Sabalenka qui est au service, et donc précision importante, hein. Ça se joue en indoor puisque voilà, on a un peu de pluie, on a eu du beau temps, on va pas se plaindre.
Eh bah oui, on va pas se plaindre effectivement. Prenez votre place.